Bonjour à tous, donc merci pour cette invitation. Je remercie François Héran et puis aussi Laura Audasso et puis tous les gens qui contribuent à l'animation de la chaire Migration et Société. Comme cela a été précisé à l'instant par François Héran, ce séminaire est focalisé sur la question de l'État et de comment les recherches sur l'immigration et les chercheurs en sciences sociales peuvent. Je partage mon écran juste un instant, peuvent utiliser les apports de la sociologie politique ou de l'histoire politique de l'État pour appréhender les questions d'immigration. Voilà, donc le titre que j'ai donné à cette présentation, il aura un air de famille pour les gens qui s'intéressent à la sociologie politique ou à la science politique, puisqu'il est un emprunt à une chercheuse américaine qui s'appelle Taida Skocpol, qui est donc politologue à Harvard et qui avait écrit en 85, ça commence à dater maintenant, un chapitre qui a été depuis très très cité et très utilisé par les chercheurs en sciences politiques et qui s'appelait Bringing the State Back In et qui, mot à mot, veut dire remettre l'État, ramener l'État au centre et qui portait précisément sur cette espèce de montée qu'il y avait à l'époque dans la littérature en sciences politiques. Notamment sur les questions de politique sociale, elle c'est une spécialiste des politiques sociales, cette montée des références à l'État, et elle écrivait dans son papier qu'on passait de théories centrées sur la notion de société, le concept de société, vers un renouveau d'intérêt pour les questions centrées sur l'État, et elle s'en réjouissait, parce que après une dizaine d'années à passer à discuter sur comment les sociétés, on pourrait les comparer, notamment c'est un papier qui fait tout un état de l'art sur comment on peut faire du comparatisme en sciences sociales, constater qu'on sortait un petit peu d'une période où on parlait tout le temps des sociétés et des cultures pour aller vers une période où on comparait aussi, on réintroduisait le rôle de l'État dans tout un tas de politiques publiques, elle faisait une espèce de synthèse sur qu'est-ce que ça pourrait apporter du point de vue méthodologique, justement, de ne pas oublier qu'il y a des États, des bureaucraties qui travaillent les sociétés, et que quand on compare des sociétés ou qu'on appréhende des phénomènes sociaux, c'est important de garder en tête ce qui se joue du côté de l'État. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est un peu un clin d'œil à ce type d'approche-là, qui consiste à dire, bon, quand on a un objet de recherche, une question de sens social qui est liée aux migrations, comment on peut reprendre en compte ou mettre au centre l'État, comme le proposait de le faire Taida Skocpol en 85. Ça invite à se poser la question de l'autonomie relative de l'État par rapport aux sociétés, dans quelle mesure les bureaucraties ont une forme d'autonomie. Ça invite aussi à se poser la question de comment l'État, alors un acteur qu'il ne faut pas trop réifier, hein, ce sont des agents de l'État, ce n'est pas juste une statue qui joue, qui avance comme ça dans la société, mais comment l'État et ses acteurs, ses agents administratifs, déploient leur propre logique, ont leur propre agenda, ont leur propre agency, diraient les spécialistes des mobilisations, et sont capables effectivement d'avoir leurs propres actions qui ne se réduisent pas à la notion de société. Et donc appliquée à l'immigration, cette séance, c'est un peu pour moi l'idée de dire on pourrait se poser la question de quels sont les apports et les acquis d'une approche d'immigration qui introduisent le rôle de l'État dans l'appréhension des migrations. Et alors, le rôle de l'État dans les politiques migratoires, mais aussi au sens plus large, dans tout un tas d'autres sous-secteurs. L'idée, c'est de dépasser aussi une vision où la société serait juste une cohabitation entre groupes plus ou moins délimités. Hein. C'est à partir de variables culturelles, c'est un peu la vision qui est proposée, par exemple, avec la notion d'insécurité culturelle, hein, proposée par Laurent Bouvet, où on aurait finalement un État qui serait face à des groupes, mais souvent l'État est absent, et on aura surtout des groupes qui seraient porteurs de culture et qui cohabiteraient, etc. Donc là, il y a toute un rôle joué par l'État, qui est un rôle qui a été maintes fois démontré en sciences sociales sur tout un tas de sujets, et pas que l'immigration, et qui renvoie à poser la question de comment les catégories de pensée de l'État travaillent les acteurs, mais tous les acteurs sociaux, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Hein. Donc ça, c'est l'article un peu classique, souvent cité, de Pierre Bourdieu, qui s'appelait « Esprit d'État », et qui faisait une espèce de focus sur ce qu'il appelait la pensée d'État, et qui disait que finalement, essayer de penser l'État, c'est s'exposer à reprendre à son compte une pensée d'État, appliquer à l'État des catégories de pensée qui sont produites et garanties par l'État. Et donc, il y a tout ce travail pour un chercheur en sciences sociales, déjà, de mise à distance des catégories d'analyse et de pensée de l'État, et c'est encore plus vrai, sans doute, on va le voir, quand il est question de l'immigration. Donc là, on voit aussi les dates, c'est 93, on reste dans cette période aussi, le cours sur l'État sur Bourdieu, c'est 89-92, où, en sens social, un peu comme le faisait Ted Askropol aux États-Unis, on remet un peu l'État au centre du jeu et on se pose des questions. Donc, c'est aussi l'époque où, par exemple, Alain Desrosières publie La politique des grands nombres. Il y a toute cette réflexion sur comment l'État, par exemple, découpe le social à partir des catégories socio-professionnelles et comment, en fait, quand l'État produit de la nomenclature statistique, il ne fait pas que compter ou dénombrer, bien sûr, il produit et classe aussi les individus et il contribue à fabriquer la société. Les CSP ne sont ni un reflet naturel de la société, ni une construction totalement logique. Hein, c'est aussi le produit d'agents de la statistique publique qui vont construire et mettre un indicateur à l'État. Appliqué à l'immigration, hein, c'est ce que fait Sayad, en fait, quand il importe sur les questions d'immigration la notion de pensée d'État qui renvoie au papier de Bourdieu en 93, il dit s'il y a bien un sujet sur lequel on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le rôle de l'État, c'est bien les questions d'immigration. Hein. Le phénomène migratoire en sa totalité, écrit Sayad, ne peut être pensé, ne peut être décrit autrement qu'à travers les catégories de la pensée d'État, et notamment à travers la séparation nationale-non nationale que, en permanence, s'évertue à maintenir les agents de l'État. Donc voilà un peu pour on va dire, l'intérêt de s'intéresser à cette question de l'État aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez fondamental quand on travaille la question des migrations. Travailler la question de l'État, le remettre au centre du jeu, ça permet notamment de limiter trois points aveugles. Hein. D'abord, ça permet de s'interroger sur l'approche qu'on peut avoir, la façon dont notre propre approche, nos prénotions, dirait Durkheim, sont façonnées par la façon dont l'État problématise les questions migratoires. Ça, c'est un premier retour réflexif hein, sur soi-même. Ça nous oblige à regarder déjà comment l'État pense lui-même les questions migratoires. Donc, par exemple, c'est un exercice que j'ai fait volontairement avec des dates qui sont un peu éloignées dans le temps. Donc, c'est un tableau ici du site du ministère de l'Intérieur de 2005 qui montre comment l'État lui-même, finalement, regroupe les nationalités ou les classes du côté du ministère de l'Intérieur. Et donc là, on voit, en fait, ce qui nous intéresse quand on commence à adopter ce regard sur la pensée d'État et l'immigration, c'est pas tellement le contenu des cases en elles-mêmes qui deviennent presque secondaires, mais d'abord les catégories, les modes de classification, la façon dont l'État construit un problème de l'immigration et l'ordonne, et en regardant comment ces catégories, alors sont à la fois le produit de nécessité, on va dire, pratique et logistique de comptage, hein, délivrer des cartes de séjour, etc., mais aussi le produit d'une histoire qui vise à distinguer un espace économique européen élargi, hein, pour reprendre les terminologies officielles, des pays tiers, de regrouper dans l'Afrique à la fois le Maghreb et des pays anciennement sous administration française, parce que ça renvoie à la fois à des droits, mais à une histoire particulière pour ces déplacements, et nous mettre dans un grand sac qu'on appellera autres pays africains, tout ce qui est le reste, et on peut s'amuser, comme je l'avais fait à une époque pour à destination d'étudiants de première année de licence, c'était de s'amuser à faire ça pour tous les pays. Comment l'Australie classe comme ça? Donc en Australie, on va mettre Commonwealth d'un côté, hein, donc tout ce qui est l'ancien empire britannique, et puis les îles à proximité, etc. Donc on voit bien que tout ce qui est, on va dire, notre perception première des questions migratoires, elles sont souvent travaillées déjà par ces catégories d'administration publique. Et si on regarde la façon dont l'État le met en indicateur, on voit déjà des formes de stratification, de hiérarchie qui peuvent être intéressantes à analyser. Le deuxième intérêt, c'est de s'interroger sur ce que l'État fait au parcours des migrants eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que contre une approche qui irait purement travailler la subjectivité des migrants sans s'intéresser à la question du droit ou à la façon dont l'accès au séjour vient travailler les biographies, réintroduire l'État, c'est poser la question de comment l'accès à des droits administratifs ou le fait qu'on arrive à correspondre à des attentes administratives pour obtenir le droit d'asile ou d'autres formes de droits peut avoir un effet structurant sur la trajectoire des individus. Ça peut être aussi de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le rapport à l'acquisition de la nationalité, et qu'il y a tout un champ de recherche, le papier de Sayad portait d'abord déjà là-dessus, hein, sur la naturalisation, qui mérite d'être interrogé. Et enfin, plus largement, en vérité, quand on travaille sur le rapport entre l'État et l'immigration, on ne s'intéresse pas que à l'immigration. Et pour reprendre le texte, le titre de cet ouvrage de Michel Marie, Tofik Halal, Jean-Pierre Buffard et Thomas Regazzola de 1974, ça a bien sûr une fonction miroir. C'est-à-dire, on croit parler des immigrés quand, en fait, c'était le titre du livre, on parle de notre propre société. Travailler sur la question de l'État, c'est de travailler en retour sur la façon dont la société française délimite les contours de la nationalité et de la citoyenneté. Donc, après cette introduction qui dit des choses bon, qui sont un peu, on va dire, déjà connues, mais qui permettent de cadrer l'intérêt de travailler sur l'État, je vais aborder dans un premier point la question de comment on peut passer dans une analyse de la question des migrations, du déplacement, à la construction administrative d'un problème de l'immigration. Donc, le premier point à mettre en avant, c'est que les migrations en tant que telles sont d'abord un révélateur de l'interdépendance des mondes sociaux. C'est-à-dire avant même qu'on pense la question de l'État, et avant même qu'il y ait un enracinement des États-nations sous leur forme moderne au XIXe siècle, il y a des déplacements, hein, alors qui sont des déplacements de territoire à territoire, qui ne sont pas toujours visibilisés tels quels, mais si on pouvait peut-être s'accorder sur le vocabulaire, on pourrait garder le terme de migration en deux mots, hein, les migrations, pour désigner les processus de mobilité qui sont autant sociaux que géographiques, mais qui correspondent à un déplacement depuis un groupe de départ vers un groupe d'arrivée et qui renvoie à des logiques sociales. Et donc la migration, si on la prend et on la définit comme ça, elle peut être aussi une migration interne. Ça peut être un Auvergnat qui se déplace à Paris, un Breton qui se déplace à Paris. Donc là-dessus, il y a une série de recherches qui ont travaillé sur la question, par exemple, de l'exode rural. Ça peut être aussi des formes de déplacement à l'intérieur des empires, hein, avec toute une invisibilisation de certains déplacements. Hein. Il y a tout un travail comme ça, notamment de mise à distance du lexique de l'immigration par les personnels administratifs français qui considèrent la migration, les migrations algériennes, avant 1962. Il y a le refus de parler d'immigration parce qu'on refuse de donner le statut, bien sûr, d'un État indépendant à l'Algérie. Et donc parler d'immigration algérienne avant 1962, ce serait pour les autorités françaises reconnaître une extra-nationalité des Algériens. Et que donc, en permanence, on va avoir des gens qui corrigent d'ailleurs les notes administratives en disant non, on parle des migrations. DES, plus loin, migration S. Et donc là, on va commencer à ouvrir la boîte, on va dire, la voie noire de ce qu'est les migrations en vérité. On va s'apercevoir qu'en fait, c'est vraiment un lien vraiment très intime avec ce qu'on pourrait appeler la nationalisation des sociétés. Hein. C'est l'étatisation plus la nationalisation. Hein. Et tant qu'il n'y a pas une forme de relation bilatérale ou de dialogue entre deux États-nations, les acteurs eux-mêmes administratifs se refusent à parler d'immigration. Donc il y a tout un courant de sociologie qui met ça de côté ou qui l'analyse comme quelque chose d'assez finalement secondaire, c'est-à-dire, et qui va analyser la partie, on va dire, des migrations en deux mots. Hein, c'est les travaux classiques de William Thomas et Florian Zanieski sur le paysan polonais. Hein, donc William Thomas, chercheur américain, Zanieski, polonais, où on travaille sur le groupe de départ, la Pologne, des paysans polonais, qui quittent la société de départ et puis on regarde comment il y a un cycle de désorganisation, de migration et de réorganisation. Hein, c'est tout un tas de travaux de l'école de Chicago. Qui ont été très, très, très inspirants pour travailler ces questions-là. C'est aussi des choses qu'on va retrouver dans beaucoup des travaux de Sayad quand il s'intéresse aux âges de l'immigration, hein, sans séparément de la question des États. Sayad montre que pareil, il y a une forme de désorganisation du groupe paysan algérien au début, qui est liée à la colonisation. Une migration d'abord comme délégation du groupe d'origine, hein, c'est ce qu'il appelle le premier âge. Une migration après où il y a une individualisation, les individus quittent le groupe paysan algérien pour aller en métropole tenter leur chance, et puis une migration installation dans le pays d'arrivée. Hein. Et puis après, il y a une inversion d'une forme de représentation du pays d'exil comme un pays idéal. Mais ce qui est plus intéressant par rapport à la problématique que nous avons aujourd'hui, c'est de construire comment ces migrations peuvent être appréhendées de façon très différente au fil du temps par une administration. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce même flux migratoire qui commence, nous raconte Sayad, à partir de la trajectoire de Mohand dans El Gorba dès 1913, et puis le même dynamique migratoire va être saisi à la fois à travers le prisme de la guerre d'indépendance, c'est-à-dire avec une surveillance policière accrue, puis après 62, le flux migratoire persiste, et là, il est saisi à travers des relations bilatérales. Donc là, il y a toute une articulation à faire quand on travaille sur la question de l'État, c'est d'essayer d'avoir une disjonction, au moins en partie artificielle au départ, entre ce qui est la dimension, on va dire, migratoire, le déplacement, et la façon dont il va être saisi par des structures administratives, parce que ça peut être deux plans qui, en partie, peuvent être disjoints au fil du temps. Une série de travaux qui montrent très particulièrement bien ce que je viens, et qui illustrent particulièrement bien ce que je viens de dire, ce sont bien sûr tous les travaux qui s'intéressent au début des États-nations. Hein. C'est ce que notamment Noyelle avait regroupé ça dans une série de textes dans son livre « États-nations et migrations » en 2001, où il montre bien qu'il y a toute une une, un racinement de l'État, qu'on bascule d'une définition purement politique de la nation version 1789 à une détermination plus juridique de ce qu'est l'appartenance nationale avec la, qui va aboutir à l'inscription d'un code à la nationalité en 1889, et que donc là, il y a eu 100 ans d'histoire de construction juridique, d'enracinement de l'État qui vont rendre beaucoup plus visibles les déplacements. Hein. Donc pour résumer un peu la thèse de Noël, c'est-à-dire qu'il y a une étatisation, hein, un enracinement d'une bureaucratie qui bien sûr est tout à fait fondamental pour saisir ça. Donc ça passe par la construction d'une police, une police des frontières, la construction d'une administration qui va être prévisible, qui va organiser les choses. Donc ça, c'est on sait que le nombre de fonctionnaires double en France, entre 1870 et 1914. On passe de 700 000 fonctionnaires à 1,3 million de fonctionnaires. On a aussi tout un déploiement d'un État autour des lois sur la famille, les accidents du travail en 1887. Et la fin du XIXe siècle, c'est aussi le déploiement d'un État social, mais auquel on va adosser des droits différents selon que les gens sont de telle ou telle nationalité. Et puis, c'est aussi l'enracinement d'un État et donc la multiplication d'emplois publics qui vont être fermés aux étrangers. Donc ça, c'est la thèse de Serge Slama, qui est un juriste et qui, lui, a travaillé sur comment la France a inventé ce modèle de fermeture de l'emploi public aux non-nationaux, et donc sa thèse qui s'appelle « Le privilège du national ». Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que, en fait, on ne parle pas d'immigration, en vérité, avant cette transformation et cet enracinement de l'État. Comme l'écrit Noriel dans l'État Nation et Immigration, sous le Second Empire, il y a déjà près d'un million d'immigrés en France, mais ceux-ci n'ont pas encore de nom. Les archives de police prouvent que les violences et les rixes entre travailleurs étrangers et français sont légion, mais ils ne trouvent pratiquement aucun écho dans la presse. Ce n'est qu'au moment de la Grande Dépression, des années 1880, avec le triomphe de l'État social et de nouveaux groupes de porte-parole et de fonctionnaires qui créent, que le problème des étrangers fait éruption sur la scène politique et que l'essentiel du lexique de l'immigration est inventé. Et donc, pour qu'on bascule comme ça à une visibilisation et à une transformation de ces migrations en un problème d'État à État, il faut d'abord qu'il y ait cet enracinement et ces nouvelles lignes de partage au sein de la société française. Autre exemple que cite Pierre-Jacques de Rennes, c'est la thèse de Pierre-Jacques de Rennes sur les travailleurs belges, qui montre qu'il y a déjà des phénomènes de compétition sur le marché du travail au nord de la France entre travailleurs belges et français, mais tant qu'il n'y a pas ce marquage très fort entre français et belges lié à l'enracinement de l'internation, on perçoit ça comme des rixes. La police perçoit ces compétitions et ces formes de compétition parfois violentes devant les grilles des usines comme des rixes entre travailleurs ouvriers, et qu'à partir du moment où il y a une délimitation forte entre français et étrangers, on va avoir une transformation du vocabulaire policier qui va saisir ces mêmes bagarres comme des rixes xénophobes et ayant pour motif des formes de motifs contre les étrangers. De la même façon, on pourrait essayer de travailler la façon dont dans les migrations ouvrières, on va commencer à saisir que les formes d'origine peuvent être labellisées à travers des terminologies de type étatico-national. Donc, je vais être obligé d'avancer un petit peu, mais c'est aussi cette idée que c'est à peu près au même moment qu'on va voir se constituer un nouvel espace public républicain qui va être une caisse de résonance pour la stigmatisation de l'étranger. Donc là, c'est l'envers de cette nationalisation des sociétés contemporaines, c'est que, bien sûr, il y a une figure étrangère sur laquelle une série d'attaques vont être dressées. Et puis, c'est aussi l'affirmation d'un nationalisme littéraire. Le développement d'un antisémitisme de la presse, aussi, c'est le travail qu'a pu faire Gérard Noriel sur Drummond. Cette émergence-là d'un état d'enracinement va être encore plus redoublée par rapport à ce qui va se passer autour de la Première Guerre mondiale. Donc là, il y a les travaux de Bonnard-Arbiou, notamment sur la construction d'un savoir sur l'immigration, mais il y a aussi tout le travail des gens qui ont travaillé sur l'histoire du patronat, que ce soit Daniel Fraboulé ou autre, qui montre comment s'est construit progressivement un patronat national qu'il y a eu une unification progressive du patronat et une mise à l'échelle de la dimension nationale. C'est ce qui va être renforcé aussi pendant la guerre, avec la mise en place d'un comité pour la main-d'œuvre étrangère en temps de guerre. Voilà, donc je continue d'avancer, mais c'est aussi la période où on perfectionne les méthodes d'identification, où il y a l'invention du passeport, la France rétablit l'obligation en 1914, donc ça aussi, ça va de pair avec le déploiement de techniques administratives et de techniques de repérage. Ce qui est important, c'est qu'à partir de ce stade, le mot immigration, en fait, en vérité, et on a vraiment intérêt à l'avoir distingué des migrations, on devrait plutôt l'utiliser pour désigner la façon dont une société d'arriver, organisée sur des bases, on va dire, nationalisées, hein, ayant eu une nationalisation du champ politique totalement achevée, désigne la question et met en problème la question des étrangers. Et ce, de façon quasiment, on va dire, décalée ou disjointe par rapport à la réalité des flux migratoires. Ça, c'est quelque chose aussi d'assez marquant, c'est-à-dire qu'on nous parle finalement dans l'espace public français énormément des immigrés au moment de la crise des années 70, la crise économique, mais en réalité, le gros des flux migratoires, de la réalité de l'arrivée des flux migratoires, sont plutôt ceux des années 50 et 60, c'est-à-dire pendant les Trente Glorieuses. Donc on peut avoir d'un côté une réalité migratoire, qui est celle que décrirait Thomas Sniecki avec le paysan polonais, ou Sayad avec l'immigration algérienne, qui a une forme de réalité statistique qu'on peut mesurer. Et puis il y a un problème de l'immigration qui peut être en partie décalé des migrations et des flux migratoires habituels, si ce n'est que, avec le temps, cette catégorie d'immigrés ou d'immigration, elle a acquis une forme de force dans l'espace public. Les sociologues disent qu'elle est naturalisée. La plupart des gens l'utilisent comme si elle allait de soi, alors qu'elle est vraiment le produit, au départ, d'une séparation juridique portée par un État. Donc c'est ce basculement-là, c'est comment l'État aussi participe à fabriquer des catégories qui peuvent être reprises dans le champ politique ou l'espace public, qu'il faut intégrer à l'analyse. D'autant plus étonnant dans le champ, dans le cas français, que c'est au moment où il y a une nationalisation du champ politique, la France est encore un empire. C'est-à-dire qu'on a une métropole qui se vit sur des bases nationales, qui commence à penser à un problème de l'immigration, alors que la réalité de son pouvoir économique et de son pouvoir géopolitique est encore mondiale, à une échelle globale, façonnée par la colonisation. C'est-à-dire que l'Empire français en 1920, voilà ce que ça représente. On pourrait faire le même type de projection sur l'Empire britannique, mais c'est toute la réflexion de Cooper et Stoller, c'est qu'on a des États-nations qui se pensent en métropole comme des États-nations uniquement, avec la vieille carte de France dans toutes les écoles de France où il y a uniquement la métropole, alors qu'en réalité, la surface, on va dire, de la puissance politique et économique de cet État-nation est un empire. Et donc, il y a la proclamation de droit universel très fort au niveau des métropoles, alors qu'en réalité, il y a une disjonction, notamment dans l'accès à la citoyenneté, par rapport aux citoyens des colonies. Ce qui fait que on a une bureaucratie métropolitaine qui va mettre en problème un problème de l'immigration et qui ne dialogue qu'en partie avec la bureaucratie impériale. Et donc, c'est là tout l'intérêt des travaux sur le courant des études impériales que travailler sur ces tensions de l'Empire. Et c'est aussi pour ça que tout un tas de gens qui ont fait parfois leur thèse avec, par exemple, Gérard Noiriel, qui est un spécialiste de l'immigration, ont transposé finalement les outils pensés pour penser comment l'État et les bureaucraties travaillent le social, ils ont pris ces outils et les ont transposés pour penser des questions impériales. Dans le travail d'Emmanuel Saada, les enfants de la colonie, c'était de travailler cette même question, comment des outils juridiques, la construction d'un droit spécifique, etc., peut venir travailler des sociétés, et dans le cas de l'Empire français, notamment, arriver à cette catégorie juridique de métis qui est quand même frontalement, en apparence, contraire à ce que sont les droits de l'homme et la déclaration de l'universalité telle qu'elle est pensée en métropole. Donc là, je renvoie à des références comme la revue Genèse, le numéro Sujet d'Empire, où notamment il y a un article très intéressant d'Alexis Pierre sur le statut juridique des Français musulmans d'Algérie, qui sont là aussi dans une espèce d'entre-deux juridique assez étonnant. Mais donc, il faut bien garder en tête qu'il y a cette espèce de construction d'un problème de l'immigration qui a aussi un impensé qui est laissé dans l'arrière-boutique tout le long du XXe siècle, et même du XIXe, qui est la question des droits disjoints des migrants indigènes et de ceux qui sont étrangers immigrés. Cette idée-là, il faut l'avoir en tête, y compris quand on travaille sur les politiques migratoires plus contemporaines, car finalement, la décolonisation, ça va être une grande partie, une évolution, un réalignement de l'ancien mode colonial sur ce mode de pensée qui est celui de la problématisation autour de l'immigration. Donc la décolonisation, c'est aussi la création de relations diplomatiques bilatérales, avec la création d'ambassades, l'émergence de deux États-nations qui se parlent, une ancienne puissance coloniale et une ancienne possession qui a acquis l'indépendance. Et donc là, on va avoir souvent des migrants qui vont changer de statut sans avoir à migrer. Donc ça aussi, c'est un truc qui est particulier, c'est qu'il y a des gens qui sont devenus immigrés sans bouger de chez eux. Parce qu'il suffit que vous soyez arrivé en France en tant que migrant de l'intérieur, mais avec un statut de colonisé, par exemple, typiquement, vous êtes un Algérien arrivé en France avant les indépendances et vous arrivez sur le sol français, vous devenez étranger à distance sans, juste par la magie du droit, en fait. Hein, vous transformez, vous avez un basculement d'un mode de domination juridique à un autre. C'est aussi ce qui oblige à penser, par exemple, ce qui se joue autour des indépendances nationales, où l'État français, pendant très longtemps, a essayé de lutter contre les indépendantistes algériens, comme là, c'est le cas, ce sont des cartes de l'État-major français qui sont des cartes préparatoires aux accords d'Évian, où on voit comment la France avait pensé, à un temps, essayer de créer des enclaves, un peu comme Ceuta et Melilla en Espagne, pour garder en Algérie des enclaves françaises dans lesquelles on aurait pu avoir des Français avec un statut dérogatoire, un double statut, etc. Donc à partir du moment où ces solutions sont abandonnées, qu'on a deux États-nations qui vont se parler et qui vont mettre en place des régimes de circulation spécifiques pour leurs immigrés, on voit bien que la problématisation sur la base d'États-nations, elle va structurer les trajectoires migratoires. Alors maintenant, j'arrive dans un deuxième point de cette présentation, c'est que je voulais faire un peu une forme de boîte à outils de comment on peut travailler cette question de l'État et de l'immigration. On se rappelle à la fois des travaux récents et puis à mes propres travaux. Qu'est-ce qui ça suppose de faire ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire de réintégrer l'État dans l'appréhension des migrations et des flux migratoires. Ça suppose une réorientation des méthodes de recherche en se focalisant pas simplement sur les migrants, mais aussi sur les agents de l'État, sur leurs pratiques et sur ce que font les agents de l'État au quotidien. On peut appréhender le droit sous les différents aspects, c'est-à-dire à la fois faire une analyse des textes juridiques, mais on peut aussi analyser les acteurs qui, tous les jours, écrivent des notes administratives, appliquent des règlements et ne pas partir que du fait que, parce qu'il y a un texte juridique qui serait appliqué de façon totalement conforme par des acteurs administratifs. L'idée, c'est bien d'appréhender l'État à travers ses agents administratifs et leur travail concret. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes possibles. Donc là, je fais une petite forme de parcours de lecture que des gens qui commencent à travailler sur ces travaux-là pourraient avoir pour se donner ces idées. Il y a la possibilité d'entrer, par exemple, sur les carrières de papier, ce que Alexis Pierre a appelé les carrières de papier des migrants, c'est-à-dire ne s'intéresser à la façon dont l'administration traite en série des demandes déposées par des personnes étrangères, à la fois sur le plan du droit au séjour, mais aussi sur la naturalisation. Donc on peut faire comme ça des séries statistiques et regarder comment la somme de décisions individuelles prises au nom de principes souvent universels, comme ceux déclamés par l'ordonnance de 1945, si on les analyse au cas par cas, on peut ne pas voir de forme de principe discriminatoire, mais si on prend des séries entières, on peut avoir une autre appréhension des pratiques administratives et voir que, par exemple, certains biais vont toujours impacter ou affecter certains types de demandes de naturalisation ou d'accès au séjour. C'est l'objet du travail d'Alexis Pierre, Étranger à la carte, où il travaille sur ce qu'il appelle l'éthos préfectoral. Il s'inspire en cela du travail notamment de Michael Lipsky, qui est un chercheur qui a travaillé sur les street-level bureaucrates, ces bureaucrates au niveau de la rue, au niveau du guichet, et il regarde comment les agents de préfecture ont traité la question des étrangers entre 45 et 75 et comment, en l'absence de texte explicitement discriminatoire, ils ont quand même procédé à une forme d'orientation de la politique publique migratoire par en bas, à travers les décisions prises au niveau des guichets. Une autre façon de faire, ce serait de s'intéresser aux agents administratifs eux-mêmes, c'est-à-dire de faire des statistiques, non pas des dossiers déposés par les migrants, mais travailler sur les carrières administratives et regarder comment, par exemple, se reconvertissent des acteurs qui étaient auparavant en poste en colonie et comment ils trouvent des nouveaux postes en France. C'était notamment l'objet de ce numéro de la revue Politique, ce qui était dirigé par Françoise de Barros en 2006, où, avec plusieurs entrées, on essayait de montrer, un petit groupe de chercheurs d'essayer de montrer comment on peut avoir une analyse quasiment clinique des reconversions depuis l'espace colonial vers la métropole des agents en charge de l'immigration. Et là, il apparaît que la continuité entre colonie et immigration, elle est sans doute vraie à un niveau structural, mais après, quand on descend dans le micro et de regarder qui se reconvertit dans quel espace, là, les choses sont souvent assez complexes. Par exemple, il y a une reconversion très très forte dans le champ des foyers Sonacotra, vous savez, cette société d'hébergement pour les travailleurs algériens qui est après étendue à tous les travailleurs étrangers. Et donc là, on va avoir plus de 80% des gérants de foyers qui sont d'anciens sous-officiers de la guerre d'Algérie ou d'Indochine, parce qu'il y a une filière de recrutement qui est organisé. Et là, on va avoir une reconproduction de pratiques dites coloniales. Alors là aussi, quelles sont les pratiques reproduites? Ce que montre le papier de Choukri Med, c'est que ce sont notamment des pratiques militaires. Ce sont des anciens sous-officiers et qui ont tendance à tenir le foyer Sonacotra comme on tiendrait un bataillon ou un camp militaire, avec certains qui font même un lever de drapeau le matin, etc. Mais en gros, ce qui est essentiellement reconverti comme disposition du monde colonial, c'est une dimension disciplinaire. Ce sont surtout ces pratiques-là qui vont avoir à être reconduites ensuite en métropole. On a aussi les travaux d'Emmanuel Blanchard sur la police parisienne et les Algériens, qui là aussi, dans une analyse micro, des recompositions, des brigades spécifiques, etc., d'une époque à l'autre, montre comment on a une forme de spécificité de la police parisienne qui va se maintenir à l'égard des Algériens, le travail s'arrêtant en 1962. J'avais fait pour moi-même un petit travail sur les préfets, en montrant quels étaient les préfets passés par les colonies ou par l'Algérie, plus spécifiquement entre 64 et 78. Et on voit qu'il y a près d'un tiers des préfets en poste en France en 1978 qui étaient passés par l'Algérie et 15% par les autres colonies, ce qui faisait un total de presque un préfet sur deux qui avait eu des expériences en poste en colonie. Et je m'étais amusé à faire la même chose pour les cabinets ministériels, où là, on voyait que selon les ministres qui étaient au pouvoir, les premiers ministres au pouvoir, on avait des petites fluctuations, mais on avait notamment en 1974, près de 28% des conseillers techniques en cabinet ministériel qui étaient passés par les colonies. Donc là aussi, la question qui se pose, c'est quand on fait ce genre de chiffres, c'est une fois qu'on a isolé des formes de recomposition comme ça d'acteurs administratifs qui étaient en poste en colonie, qui sont revenus s'installer en métropole et qui poursuivent un travail administratif en métropole, c'est quelles sont les dispositions, qu'est-ce qu'ils peuvent reconvertir et qu'est-ce qu'ils sont obligés de mettre en sommeil aussi, parce que c'est un autre contexte administratif que celui dans lequel ils étaient auparavant. Et là, on a tout un courant de recherche qui a essayé de travailler sur ces reconversions. L'autre type d'enquête qu'on peut avoir aujourd'hui, ce sont des enquêtes qui travaillent sur le rôle qui font une ethnographie des frontières matérielles et symboliques. Donc là, c'est des travaux non pas statistiques, mais des travaux plus, ethnographiques ou qualitatifs. Notamment, un travail que je trouve assez intéressant, qui peut être pas mal pour des gens qui commencent à travailler ces questions-là, c'est Illegality Inc. de Ruben Anderson, qui est une forme d'ethnographie de la politique Frontex. En fait, donc, il descend toute la chaîne de Frontex, depuis des gardes frontières jusqu'aux passeurs clandestins, et il montre comment tout ce système-là a créé aussi une économie entre les acteurs qui vendent des lunettes infrarouges pour repérer les migrants dans le désert, les acteurs qui vendent des drones. Enfin, il y a toute une dimension aussi économique à ces politiques migratoires. Il y a aussi le travail de Stéphane Lecourant, qui lui travaille énormément aussi sur la perception par les migrants de toutes ces formes de contrôle de poursuite des migrants sans papier. Et il montre comment, notamment du côté des migrants sans papier, il y a une crainte de tout ce qu'on pourrait appeler un contrôle de second niveau, c'est-à-dire vous jouez au PMU, mais pour aller retirer vos gains dans un bureau de tabac, il vous faut une carte d'identité ou une pièce d'identité, et donc le gérant du bureau de tabac peut être vu comme un auxiliaire possible de police, de la même façon qu'un agent RATP peut déclencher un contrôle de police, et donc il y a toute une perception du point de vue des migrants, d'une forme de frontière qui ne passe pas que par les acteurs policiers, mais aussi par des acteurs non étatiques. Il y a eu des ethnographies plus centrées sur la rétention, la politique de rétention, sur le travail de Nicolas Fischer, notamment, c'est le livre « Le territoire de l'expulsion » paru en 2017, qui est à la fois une socio-histoire des débats sur qu'est-ce que c'est que la rétention, pourquoi on a une politique de rétention en France, et une enquête spécifique dans un centre de la rétention, où là aussi, il montre comment le droit est approprié par les associations de défense des migrants, mais aussi renforce certaines logiques juridiques. Et il y a aussi le travail de Carolina Beau-Sanchez, son livre apparaît, Undeported, qui travaille un peu les mêmes questions. On a aussi tous les travaux de sociologues ou d'historiens qui ont travaillé sur la naturalisation, notamment le travail d'Adi Ali Hadjat, les frontières de l'identité nationale, où il travaille notamment sur les bureaux de naturalisation, et il montre comment fonctionnent ces espaces-là. Il y a aussi la thèse de Camille Gourdeau sur les bureaux d'accueil des étrangers. Il y a aussi une sociologie du contrôle de l'expression religieuse, donc là, c'est le travail de Solène Joanneau sur les imams en France, qui montre comment, du côté du ministère de l'Intérieur et du bureau des cultes, il y a aussi toute une forme de surveillance de l'immigration, de la migration dans ces volets plus religieux. Récemment, il y a aussi la thèse de Sarah Mazouz, qui a travaillé sur la naturalisation et les politiques de lutte contre les discriminations, en montrant que c'était un peu c'était une forme de deux phases d'une même politique, et qui a notamment travaillé la question de l'appropriation des terminologies officielles. Il y a des catégories juridiques, mais comment les acteurs se les approprient et en font des catégories quasiment biographiques pour se raconter eux-mêmes. Notamment, elle montre que dans le travail de naturalisation, il y a des agents d'État qui mettent en avant en permanence le fait qu'être français, ça se mérite, et comment, pour ceux qui ont obtenu la naturalisation, cette notion de mérite bascule de l'autre côté, entre guillemets, du point de vue biographique, et les acteurs se racontent eux-mêmes comme méritant le fait d'avoir obtenu la nationalité française. Avant un dernier point, avant d'attaquer la question de la haute fonction publique, il y a, dans le même ordre d'idée que ce que je viens de dire pour Sarah Mazou, tout un tas de travaux qui travaillent sur l'interaction entre catégories et groupes. Comment des catégories juridiques basculent de l'autre côté et finissent par dessiner des groupes d'individus qui vont s'approprier ces terminologies-là, ces catégories légales-là et ces catégories juridiques. Hein. Donc ça, c'est ce que résumait François Buton, qui ne travaillait pas sur l'immigration, mais qui résumait un peu la démarche socio-historique proposée par Noiriel et tout un tas de chercheurs. C'est l'idée que des catégories légales peuvent être après mobilisées par des individus ou des groupes pour se définir eux-mêmes. C'est ce que faisait Gérard Noël, par exemple, dans Réfugiés sans papiers. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris le rôle structurant de l'État, on peut revenir au niveau des biographies et des migrants en comprenant comment ces catégories juridiques façonnent leur propre trajectoire. Par exemple, en analysant les lettres de demande de réfugiés, on voit bien comment, à l'intérieur de la demande, les individus vont s'approprier des catégories comme le danger, la répression politique, etc., pour raconter leur propre trajectoire. Et qu'on ne peut pas comprendre comment ces lettres peuvent permettre à des individus de se raconter et de raconter leur propre existence, on n'a pas d'abord fait le détour par la catégorie juridique de réfugié. De la même façon, Aurélie Audeval a fait une thèse en histoire sur la notion d'indésirable, comment les étrangers indésirables, entre 1938 et 1942, comment cette catégorie désigne certains groupes et qui finissent à générer des résistances ou des contre-mobilisations. Aujourd'hui, on pourrait, sur la même une façon similaire, travailler sur les Dublinés. Le travail de Camille Schmoll montre comment ces catégories de Dublin III finissent par coller et basculer du côté des personnels de l'aide, voire des migrantes elles-mêmes. Enfin, un autre ouvrage dans le même état d'esprit qui explore la question des effets biographiques sur les politiques migratoires, mais cette fois-ci non pas du côté des migrants, mais du côté de la société d'accueil, c'est le travail exceptionnel d'Arel Shapira sur les Minutemen américains. Donc, c'est-à-dire c'est souvent d'anciens militaires américains qui ont quitté l'armée, mais qui se retrouvent encore à faire des patrouilles avec des jeeps entre la frontière mexicaine et la frontière états-unienne, et qui se retrouvent à faire des patrouilleurs volontaires, non payés, voire même des fois perturbant le travail des gardes frontières habituels. Et dans son livre « Waiting for José », Arel Shapira les suit et montre comment ces acteurs-là, finalement, qui sont souvent d'anciens militaires reconvertis, projettent sur la surveillance de cette frontière leur propre destinée sociale, en partie contrariée par des études qu'ils n'ont pas réussi, par le fait qu'ils ont fui l'armée, donc ils ont quitté l'armée, mais ils n'ont plus de groupe de pères, etc. Et donc, finalement, c'est même une sociologie du trumpisme qui est tout aussi efficace que certaines approche par en haut. On voit très bien qu'est-ce qui fait que des individus peuvent adhérer à des discours nationalistes et se faire eux-mêmes des gardes-barrières autour de la frontière. Voilà, donc maintenant que j'en ai fini avec ces outils et ces approches méthodologiques de l'État, il me reste 7-8 minutes pour aborder la question de la spécificité des élites administratives, c'est-à-dire à l'intérieur de toute cette panoplie d'agents de l'État, hein, donc que ce soit des gérants de foyers, des policiers, etc., il y a une spécificité notamment en France, des sommets de l'État, hein, des franges les plus hautes du monde administratif, et qui sont une clé d'entrée pour aussi analyser les discours politiques. On a en France des hauts fonctionnaires qui sont en réalité des fonctionnaires gouvernants, pour reprendre les termes de Jacques Lagroix, qui est un sociologue du politique, c'est-à-dire que ce sont des acteurs qui, au fil de leur carrière, peuvent parfois être dans l'État, parfois à l'extérieur de l'État, au cabinet ministériel, au gouvernement, voire même gérer des associations de droits de l'homme ou des hauts comités aux réfugiés, comme c'est le cas dans les années 70. Et donc il y a une spécificité française qu'on va retrouver dans d'autres pays, hein, modulo certaines variations, qui est que quand on s'approche des sommets de l'État, on approche ce que Catherine Grémion, une sociologue du politique, appelait un milieu décisionnel central, où des mêmes acteurs peuvent, en fil de carrière, parfois être ministre, deux ans après être ambassadeur, peuvent être députés, peuvent être directeurs d'administration, où les frontières entre le politique et l'administratif sont souvent floues. Hein, on a en général une représentation un peu tronquée de comment marche l'État. On a l'impression que le politique, le ministre et son cabinet commandent à l'administration centrale qui exécute. En réalité, les choses ne se passent pas tout à fait comme cela, notamment parce que l'administration centrale souvent a ses propres problématiques qu'elle fait remonter auprès du ministre. Et surtout, c'est ce que décrit par exemple un politiste comme Jean-Michel Emery, hein, en parlant des cabinets ministériels. On va retrouver en permanence du côté du ministère ou d'administration centrale, dans le cas français, des gens qui ont souvent partagé les mêmes formations, des énarques, des gens qui ont fait les grandes écoles, et qui se retrouvent un peu comme un jeu de chaises musicales où chacun tourne à tour de rôle, à occuper des fonctions et des positions qui sont conjoncturelles, alors même que le groupe social, celui de la haute fonction publique, déborde ses frontières entre administratif et politique. Ce qui fait que souvent le rôle d'un cabinet ministériel, c'est de jouer le rôle de gatekeeper entre des dossiers qui vont purement rester administratifs et des dossiers qui vont devenir politiques parce qu'on va les amener jusqu'au ministre. Et que finalement, on a souvent l'idée que ce qui va politiser un problème, c'est des associations dans l'espace public ou des partis politiques qui vont se saisir d'un enjeu et le porter. Ce que nous rappelle Jean-Michel Emery ou Jacques Lagroix, c'est que l'État fabrique du politique en permanence dans ce milieu-là. Il y a des dossiers qui restent du côté de l'administration centrale, sont des dossiers qui vont rester de l'ordre logistique ou pratique, et ceux qui remontent au niveau du cabinet, parce que le ministre va s'en saisir et que ses conseillers lui ont apporté, deviennent des dossiers politiques, parce que portés publiquement, ils peuvent même déboucher sur des lois proposées à l'Assemblée. Et donc, si on a ce rôle-là, cette vision-là de l'État en tête, si on travaille la question de l'administration de l'immigration, bien sûr, il faut s'intéresser, comme l'a fait par exemple Vincent Viette, à la construction d'une politique migratoire depuis le ministère du Travail ou le ministère de l'Intérieur, comment ces ministères-là mettent en question la question du droit au séjour, les cartes de travail, les cartes de séjour. Donc ça, c'est assez détaillé dans son travail, notamment au ministère des Affaires sociales et de l'Intérieur. Mais on doit plus globalement se poser la question de comment toute une haute administration va pouvoir se faire le relais d'une mise en problème de l'immigration. Hein, c'est ce que résume bien Patrick Veil en 91 dans La France et ses étrangers. Il dit finalement, quand on regarde l'immigration, on n'a pas simplement deux ministères, l'intérieur et l'affaire sociale par exemple, qui se taperaient dessus. On a tout un État-nation transversé par cette barrière et ce questionnement sur qu'est-ce qu'un droit pour un étranger, qu'est-ce qu'un droit pour un Français. Et les décideurs qui sont en charge de la politique d'immigration, écrit Patrick Veil, sont de façon très inhabituelle, nombreux et dispersés. On ne peut pas faire une analyse de politique publique, on est très embêté. On ne peut pas faire une approche purement sectorielle, on est obligé d'ouvrir le jeu. C'est un peu ce que j'essayais de faire dans mon travail, une politisation feutrée que François Héran a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de rentrer par ce groupe qui est à la charnière entre le politique et l'administratif, et de prendre tous les listings des réunions interministérielles et de regarder qui est là, en fait, qui vient quand il est question de parler de politique migratoire. Et là, on obtient un tableau qui n'est pas simplement le travail contre le ministère de l'Intérieur, on obtient ce genre de représentation graphique. Donc là, c'est une analyse des correspondances multiples un peu simplifiée telle qu'elle est dans le livre. Vous avez tous les acteurs, donc là, 145 aux fonctionnaires, qui ont participé à des réunions ministérielles sur les questions de l'immigration. Et on voit qu'il y a des acteurs qui sont effectivement en contrebas de l'analyse des correspondances du ministère du Travail, de la DPM, du ministère de l'Intérieur, mais on a aussi des acteurs dits généralistes, comme le ministère de l'Économie et des Finances, qui ont des acteurs qui ont des propriétés assez distinctives par rapport aux autres acteurs, hein, qui ont plus souvent une ancienneté dans la fonction publique, qui ont plus souvent, sont plus souvent passés par l'ENA, par le cabinet ministériel, etc. Donc on a des ministères généralistes comme l'économie et des finances, ou même le Quai d'Orsay, hein, le ministère des Affaires étrangères, qui, en général, a un regard aussi transversal sur ces questions d'immigration. Alors qu'est-ce que ça apporte d'introduire ce type de point de vue sur le sujet, c'est qu'on prend en compte le fait que ce n'est pas que l'encadrement des déplacements. Par exemple, sur la question du Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay intervient très régulièrement pour dire à ses interlocuteurs du ministère du Travail et de l'Intérieur dans les années 70, vous êtes bien gentils, vous allez nous fâcher avec l'Algérie, qui est nouvellement indépendant. Les accords de circulation sont des annexes aux accords d'Évian, donc on ne peut pas remettre en cause les accords d'Évian comme ça. Et les relations avec l'Algérie ne se limitent pas à l'immigration. Elles incluent la question des biens français en Algérie, la mosquée de Paris, la question du pétrole au Sahara occidental, la question des militaires français. Et donc le Quai d'Orsay remet sur la table tout un tas d'enjeux bilatéraux au vu desquels la question de la migration seulement doit être pondérée ou remis à sa juste place. De la même façon, le ministère des Finances est un acteur généraliste qui très souvent va intervenir en disant « Le fonds d'action sociale, vous prétendez financer des HLM, ça pour nous c'est de l'ordre de la politique du logement. Tout ne peut pas rentrer dans la politique d'immigration. Donc ce qui est de la politique d'immigration, ça va être la lutte contre le racisme, mais ça ne peut pas être par exemple des investissements structuraux dans le financement de logements. » Et donc là, il y a une circonscription du champ du possible, et ce qu'on va appeler politique migratoire au final, c'est bien souvent le sous-produit de cette action du ministère des Finances et du Quai d'Orsay pour le restreindre à la question des cartes du travail et du séjour, justement. Et donc là, il y a tout un espace de rapport de force qu'il est nécessaire d'intégrer. Autre acquis de ce type d'approche-là, c'est qu'on voit qu'à l'inverse, il y a des discours publics qui sont tenus, alors même qu'ils sont souvent des synthèses de notes administratives. Hein, donc, typiquement, ce que je montre dans l'ouvrage, c'est que le livre de Paul Dijoud, qui est secrétaire d'État à l'immigration, et puis après sera ambassadeur, selon la logique que j'ai décrite tout à l'heure, hein, la nouvelle politique d'immigration, c'est un livre public, hein, donc qui va être réédité à plusieurs reprises, qui explique ce que devrait être la nouvelle politique d'immigration sous Giscard, mais qui est en fait une synthèse de notes administratives de la DPM, du FAS, à peine réécrite par quelqu'un qui est en cabinet ministériel, mais qui est un énarque, qui est Thierry de Montbrial, qui avant ça était au Quai d'Orsay, reprend les notes de son secrétaire d'État, les met en forme d'une façon un peu plus lisible, et ça devient un livre grand public. Et donc là, on a là aussi la frontière administrative politique, si on prend ce point de vue des hauts fonctionnaires, elle est assez gommée. Autre chose, et je vais peut-être devoir m'arrêter là-dessus, c'est que ça permet de travailler la question de l'écart entre le discours public et les justifications internes à l'État. Donc c'est ce qu'on voit bien l'écart là. C'est si on regarde ce qui se joue dans la haute fonction publique, on peut avoir des décisions qui ont deux versions. Une version publique, par exemple l'arrêt de la suspension provisoire de l'immigration en juillet 1974, qui se fait à l'ORTF, comme on le voit à gauche sur la diapositive, au nom du chômage. On a le secrétaire d'État qui vient expliquer, en tant qu'ancien inspecteur des finances, qu'on ne peut pas faire autre chose qu'arrêter l'immigration à cause du chômage. Et quand on regarde la même décision, comment elle est justifiée en interne auprès du Premier ministre par les personnels administratifs, c'est essentiellement par rapport au caractère spectaculaire, voire symbolique, qu'on prend cette décision-là. Mais la décision, elle est justifiée au nom de tout un tas d'autres choses. La crainte d'un nouveau mai 68, la question du logement, la question des déséquilibres nord-sud, enfin, tout un tas d'autres justifications qui n'ont pas du tout passé la rampe du débat public. Et dans le débat public, on ne va mettre en avant que la défense des travailleurs nationaux. Et dans l'autre sens, souvent, quand le politique demande à l'administratif de prendre position, on voit bien que ce qui est attendu, c'est-à-dire que là, c'est un extrait d'une archive où le cabinet dit en clair ce qu'il veut. Donc, par exemple, il veut qu'il y ait une délivrance et un renouvellement des cartes de travail qui ne pourront excéder un quota départemental fixé chaque année par décret. Et puis, on a des agents de la DPM qui vont faire la formulation juridique pour que ça puisse être déposé à l'Assemblée. Et donc là, en permanence, ce qui se joue entre le niveau politique et l'administratif, c'est une machine à fabriquer dans un sens du politique à partir de notes administratives, la version, le livre de Dijoud, et dans l'autre sens, fabriquer du juridique à partir de demandes politiques. Donc là, il y a une machine à tricoter dans les deux sens qui est assez intéressante à analyser. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer, mais je n'aurai pas vraiment le temps de le développer, c'est ça permet aussi d'aller même d'aller plus loin et de poser la question de comment l'État lui-même met en scène les relations entre Français et immigrés. Et ça, on en voit beaucoup d'exemples dans les années 70, car les gens qui s'occupent de la politique d'immigration sont les mêmes qui font la politique de revalorisation du travail manuel. Et leur idée, c'est de dire, en fait, il y a deux faces à notre politique, c'est on va revaloriser les travails ouvriers, on va sortir les immigrés de la chaîne de production, les renvoyer chez eux avec une aide au retour, et de l'autre côté, ça rendra ces emplois disponibles, s'ils sont un peu revalorisés, pour les travailleurs nationaux. Donc on va réduire le chômage en revalorisant le travail manuel, et on le voit synthétisé dans ce papier dans l'expansion en 80, où Stoléru finit par dire, ça y est, les Français remplacent les travailleurs immigrés. Et donc, c'est pas simplement qu'il y a une politique migratoire, c'est que c'est l'État aussi qui, en permanence, dit quels sont l'état des relations entre Français et immigrés. Et il y a ce discours public qu'il faut intégrer à l'analyse, par exemple, dans les années 70, cette semaine du dialogue Français et immigrés. Et il y a toujours cette représentation de deux mondes, en fait. Il y a les Français d'un côté et les immigrés de l'autre. Et là, il y a toute une production culturelle qui est notamment analysée par Narges Kayani dans sa thèse, ou Angéline Escafré-Dublé sur les politiques culturelles, qui est là aussi très intéressante à intégrer à l'analyse. J'en arrive à la conclusion en ayant à peine un peu débordé. On pourrait dire que, voilà, l'idée, c'est pas de repartir faire des choses trop éthérées ou trop théoriques en travaillant l'État, l'immigration, des grands concepts comme ça. Le but de tout ça, après, c'est de revenir à la société et aux individus, à analyser la société et les individus, mais en étant armé de la compréhension du rôle que l'État joue dans la construction des catégories. Qu'est-ce qui fait que les acteurs se perçoivent réciproquement comme Français non nationaux, comment il y a aussi une dimension cyclique et quasi dialectique, comment des terminologies militantes, par exemple là, comme ici à droite, c'est une imitation d'un journal militant fait par l'État à partir de modèles qui circulent à l'époque plutôt à Nanterre. Donc on va avoir un journal officiel de Mosaïque. Hein. Mosaïque, c'est l'émission officielle lancée par France 3, mais avec une version papier, où on va essayer d'avoir une forme de circulation et d'appropriation des référents un peu militants pour essayer de caler à ce type d'esthétique-là. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ce qu'elle a fait, ça joue par rapport au... par exemple, aux associations qui vont essayer de se démarquer de ces formes de récupération. Donc il y a toujours une dialectique entre le mouvement social, l'État, la façon dont l'État met en forme cette question de l'immigration, il faut l'intégrer à l'analyse. Et enfin, dernier rapport, c'est que si on intègre ça, on peut aussi peut-être remettre à sa juste place la dimension identitaire qui apparaît souvent dans les débats publics, c'est-à-dire la façon dont les acteurs se racontent eux-mêmes à travers des terminologies en se désignant comme étant, par exemple, ou refusant l'étiquette issue de l'immigration ou au contraire en se l'appropriant, etc. Ces étiquettes-là, elles ont une genèse, elles ont une histoire, et souvent quand on l'a fait, on arrive à l'État et on perçoit que c'est une catégorie d'administration publique avant que les individus se racontent à travers elle. Voilà. Donc ces dimensions-là, elles sont, je pense, très importantes et c'était une forme de plaidoyer pour voilà, qu'à chaque fois, on intègre le rôle de l'État lorsque vient la question d'analyser les migrations. Voilà. Merci.